16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon qui, vu les sujets qu'on lui réserve, aurait du mal de toute façon à se la raconter. Bonjour Mathieu Noël.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez voir, je suis gâté. Vous devriez avoir honte, mais vivement vous assumez. Stéphane, je rappelle à nos auditeurs le principe de notre émission. Trois personnages issus d'époques différentes, qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Stéphane fait les portraits des deux personnages décédés, donc souvent des types illustres. Et moi, je fais le personnage vivant, qui est, disons, plus ou moins illustre, selon les jours et selon l'humeur de Stéphane, qui décide tout ça, évidemment, de manière unilatérale. Sous prétexte que tu comprends, je suis quand même monsieur patrimoine, c'est moi qui décide. D'habitude, on arrive à un certain équilibre, mais aujourd'hui, Stéphane, c'est tellement gros que je vous laisse l'annoncer, tiens.
Mais sans problème, Mathieu, moi j'assume en même temps. Oui. C'est vous qui insistez pour parler de vos personnages encore vivants. Ça va être une émission palpitante autour de trois personnages qui ont la main verte.
Vous voulez dire les mains vertes.
Oui, les mains vertes, si vous préférez. Bon, à commencer par celui qui a donné cette lettre de noblesse au jardin à la française, André Le Nôtre, qui, du château de Vaux-le-Vicomte à celui de Versailles, aux côtés de Louis XIV, a prouvé qu'il avait la main verte, le compas dans l'œil. Puis je vous raconte le destin d'une pionnière aux États-Unis. Vous ne connaissez pas son nom, pourtant, Béatrix Farran a œuvré pour les plus grands, les Rockefeller notamment, et a réalisé des jardins considérés parmi les plus beaux du monde encore aujourd'hui. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de personnages contemporains qui ont aussi la main verte, les Tortues Ninja.
Voilà, chers auditeurs, je crois que j'ai rien à rajouter. Si vous aussi vous trouvez ça révoltant et que vous souhaitez me venir en aide, un site de soutien a été créé. Je ne suis pas une célébrité, mais sortez de moi de là quand même.fr. Voilà.
Mais
voilà.
Je croyais vraiment que ça vous faisait plaisir parce que vous adorez les Tortues Ninja. Enfin bon. En tout cas, c'est comme ça. La règle, c'est je fais les morts, vous faites les vivants.
Mais Stéphane, les Tortues Ninja ne sont pas vivantes, elles n'existent pas, en fait.
Ça reste encore à prouver. Bon, eux, en revanche, ils existent bien. Et ils sont avec nous comme chaque jour. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Clémentine, soyez-vous.
Je ne sais pas si vous avez frappé dans la fréquentation intensive des livres d'histoire, mais on a l'impression que jadis, rois et seigneurs souffraient presque tous de la goutte. La goutte, maladie de riche liée à une alimentation trop riche en protéines animales et en alcool. Trop de viande, trop de vin. Alors, vos personnages du jour, ok, avaient la main verte, à part les Tortues Ninja, et bien les miens, ils avaient le pied rouge. Et ça fait très mal.
Joli contre-pied.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention la plupart du temps.
Voilà.
Alors aujourd'hui, alors maintenant on est obligé de décrypter. C'est comme un langage codé.
Je crois que vous ne comprenez pas le sujet de David
aujourd'hui. Je ne comprends pas votre sujet.
Oui,
expliquez-nous.
Ça s'appelle l'OSINT. C'est un acronyme qui veut dire Open Source Intelligence. Et c'est le fait d'aller chercher des informations dans des sources qui sont publiques et juste de les regarder intelligemment et de déduire des choses de ça. Open Source, ça veut pas dire regarder un truc où tout le monde peut écrire. Ça veut dire justement regarder des... Vous voyez toutes ces vidéos faites par des amateurs et dont on va tirer des informations, par exemple, sur qui a abattu l'avion Malaysia Airlines en Russie. Et bien tout ça, c'est l'open source intelligence. C'est une forme de journalisme qui explose en ce moment. Je vais faire une chronique où je vais avoir du mal à faire beaucoup de blagues parce que c'est pas hyper drôle, l'OSINT, mais vous verrez,
c'est
quand même très intéressant.
Voilà. Très bien. Avec nous, Olivier Pouls. Alors, Olivier Pouls, là, on remonte aux origines.
Là, il y a une chronique où il y aura beaucoup de blagues,
Je n'ai rien compris. J'espère que je ne suis pas tout seul. Ma chronique sera beaucoup plus facile à comprendre. D'autant qu'en plus, je vais vous faire goûter le produit dont je vais vous parler. Je vous raconterai aussi d'où est venue l'idée de cette chronique qui n'est pas tout à fait tombée là par hasard. Plum cake,
le gâteau aux prunes.
La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des prunes dans le plum cake?
Oui, c'est ça. Parce que le plum pudding, qui est le gâteau que la reine fait macérer, la reine d'Angleterre, évidemment, c'est la seule à peu près que je connaisse, fait macérer pendant toute l'année pour le servir à Noël. Ça a un côté moisi, non?
Dire que vous le connaissez, vous l'avez goûté.
Je l'ai pour tous les Noëls, évidemment.
Mais vous verrez que mon plum cake, il est sacrément bon.
Enfin, ce sera ma petite vengeance, à moins que le coup des Tortues Ninja soit la petite vengeance de Stéphane à ce que je lui fais subir quotidiennement dans le quiz. Bern to be alive, ce sera comme le veut la tradition antédiluvienne maintenant, aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage qui avait la main verte. Pour moi, bon, c'est un traiteur de qualité. Pour lui, un excellent jardinier. Stéphane Bern, habitué à pousser les portes des châteaux, se contente de rester dans le jardin pour nous raconter le roi des jardiniers et aussi le jardinier du roi, André Le Nôtre.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
André Lenôtre est celui qui a donné ses lettres de noblesse aux jardins à la française. Parmi ses réalisations les plus célèbres, on compte évidemment Versailles, chef-d'œuvre absolu, mais aussi les jardins du château de Chantilly, de Saint-Germain-en-Laye, de Saint-Cloud, des Tuileries, du château de Sceaux, de Meudon, de Marly-le-Roi, ou encore de Vaux-le-Vicomte, situé à 50 km au sud-est de Paris. C'est là que je vous emmène. Un voyage dans le temps jusqu'en 1661, le soir du 17 août précisément. L'été bat son plein. Nicolas Fouquet, puissant surintendant des finances de Louis XIV, donne une fête en l'honneur du roi. Toute la cour est présente, quelques 600 courtisans et courtisanes, jamais dit-on soirée, ne fut si somptueuse. Aucune dépense n'a été épargnée, tout n'est que luxe, éclat et beauté. Imaginez un peu, l'arrivée par la grande grille du château, la silhouette majestueuse du bâtiment, chef-d'œuvre de l'architecture classique, ses superbes toitures d'ardoise et son gigantesque dôme ovoïde surmonté d'un lanternon. Louis Le Vau, l'architecte, s'est vraiment surpassé. Puis c'est l'entrée dans les lieux. Tout ce beau monde s'extasie devant les décors intérieurs de Charles Lebrun. Les dorures extraordinaires, les plafonds à voussures peints d'incroyables compositions. Et ce n'est pas fini. Dehors, on tire un feu d'artifice, au dire de tous, étourdissant. Le feu le plus beau du monde, à en croire Jean de La Fontaine, présent ce soir-là. Le ciel s'embrase de mille couleurs, les contours d'une baleine émergent d'un canal, de sa bouche jaillissent des jets de lumière scintillant. Mais le clou du spectacle, c'est l'écrin dans lequel se tient ce feu d'artifice, les jardins eux-mêmes, plus magiques encore. Depuis le grand salon du château, les invités n'en croient pas leurs yeux. La statue d'Hercule qu'ils aperçoivent au bout de la perspective leur semble tout proche. On jurerait qu'elle n'est qu'à 5 minutes de marche, pourtant elle est distante de 600 toises. Soit plus d'un kilomètre. Les invités ne sont pas au bout de leur surprise. À mesure qu'ils s'avancent, à travers les parterres, d'autres beautés apparaissent. Le cours de l'Ancaille, transformé en un majestueux grand canal, se révèle à leurs yeux qu'à son approche. Presque à la dernière minute. Le plus impressionnant reste à venir. Au niveau de l'un des bassins, le grand miroir, un subterfuge laisse tout le monde bouche bée. Quand on y plonge le regard, une copie parfaite du château se reflète dans ses eaux. Mais qui donc a pu concevoir paysage si ingénieux? Celui dont le nom est sur toutes les lèvres durant la soirée, André Lenôtre. L'homme n'est pas un inconnu, loin de là. Il est déjà une figure de proue de l'art des jardins dans le royaume, mais vaut, et sans nul doute, sa consécration. La gloire et la fortune l'attendent à présent, après une si éloquente et si publique démonstration de ses talents. Le roi, en effet, n'a rien raté du spectacle des jardins, ni de Vaux tout entier. Non, il semble même qu'il en ait pris ombrage. Oser faire un tel étalage de splendeur devant un roi absolutiste, Fouquet doit être fou. Sous couvert d'une accusation de détournement de fonds et de lèse-majesté, Fouquet est arrêté quelques semaines plus tard. La déchéance du surintendant des finances n'aura pas d'impact sur ceux avec qui il travaille, bien au contraire. Le trio visionnaire, Le Vau, Lebrun et Lenôtre, l'architecte, le décorateur et le paysagiste, vont être récupérés par le roi, qui veut leur confier un autre grand projet, son grand dessein, Versailles. Lenôtre a 48 ans cette année-là. Sa carrière est sur le point de prendre un gigantesque envol. Mais pour comprendre la trajectoire du plus célèbre des jardiniers français, il convient de revenir au début de l'histoire d'un garçon prédestiné. Lorsqu'il naît le 12 mars 1613, sa famille est depuis plus de 40 ans au service du Jardin des Tuileries. Une véritable dynastie de jardiniers. Jean Lenôtre, son père, est jardinier du roi aux Tuileries, un titre prestigieux qu'il tient lui-même de son père. Sa mère aussi, Marie-Jacqueline, est fille d'un maître jardinier. Si on connaît assez mal la jeunesse d'André Lenôtre, on sait qu'à partir de l'âge de 17 ans, en 1630, après quelques années de formation, il commence à travailler aux côtés de son père. Doué, comme un rosier, il grimpe rapidement. À 22 ans, il devient premier jardinier de Monsieur, frère du roi. 2 ans plus tard, il succède à son père à la charge de jardinier des Tuileries, avant d'être nommé dessinateur des plans et parterres de Sa Majesté, le roi Louis XIII. Déjà, sa réputation grandit, se cachait aussi d'ailleurs. Il faut savoir qu'à cette époque, faire partie de la communauté des jardiniers royaux signifie stabilité et prospérité. C'est un métier qui implique de vastes connaissances et qui se fondent sur un enseignement très poussé, notamment dans l'art du dessin, de la sculpture, de l'architecture. Le jeune Lenôtre se forme dans les prestigieux ateliers de la Galerie du Bordelot au Louvre, une galerie qui accueille les artistes du roi, où il suit les cours de l'atelier de Simon Vouet, l'un des plus grands peintres du grand siècle. Dans ce vivier d'artistes, Lenôtre côtoie de brillants condisciples. Lebrun, avec qui il travaillera donc à Vaux, ou encore le peintre François Perrier, le sculpteur Jacques Sarrazin et bien d'autres. Lenôtre se frotte également au cercle scientifique, foisonnant à ce moment du règne de Louis XIII. Il y découvre la géologie, la botanique, l'hydraulique, ainsi qu'une autre discipline qui va jouer un rôle capital dans son œuvre. Cette discipline qui passionne Lenôtre, c'est l'optique. Et en particulier un principe tout nouveau à l'époque, l'anamorphose. Qu'est-ce donc ? C'est une technique préconisée par les théoriciens du jardinage de l'époque pour magnifier les jardins en jouant avec les distances et les perspectives. Pour simplifier, si l'on veut voir de loin un carré, il faut dessiner un rectangle. Mmh. Lenôtre est le premier à oser appliquer ce principe à l'échelle d'un domaine tout entier, à Vaux-le-Vicomte. Ce chantier d'envergure, il l'obtient visiblement aux alentours de 1656. Tous les historiens ne s'accordent pas sur la date. Lenôtre y applique les grands principes de ses réalisations futures et il y signe son premier chef-d'œuvre, le premier d'une longue série, dont Versailles sera évidemment l'apogée. Versailles, c'est le projet d'une vie. Lenôtre y travaille près de 25 ans, un quart de siècle à dessiner les plans et à en superviser l'exécution. Le projet d'une vie, mais pas le seul. Heureusement pour lui, le jardinier du roi est assisté d'une armée de collaborateurs, car il mène de front de nombreuses autres réalisations. L'entretien des Tuileries toujours, mais aussi sa charge de contrôleur général des bâtiments, jardins, arts et manufactures de France, obtenue en 1657. Et puis, partout, l'aristocratie fait appel à lui. En France d'abord, à Chantilly, Saint-Germain-en-Laye, au château de la Chaise, à Saint-Cloud, à Sceaux, mais également à l'étranger, car la réputation de Lenôtre a désormais traversé les frontières. Le roi Charles II d'Angleterre lui confie notamment le remaniement des jardins de Greenwich. Il intervient également en Italie, où même le pape Innocent XI demande à le rencontrer en 1678. Une rencontre au cours de laquelle Lenôtre aurait embrassé le pape sur les deux joues. En aurait-il été capable ? On est en droit d'en douter. Quoi qu'il en soit, l'anecdote vient nourrir le mythe de celui que l'on appelait à Versailles « bonhomme Lenôtre » pour sa modestie et son heureux caractère. L'était-il réellement ? Peut-être était-il surtout un habile courtisan. En tout cas, chose rare pour un personnage de sa stature à la cour, Lenôtre conservera toute sa vie durant la faveur du roi, et même son amitié, on peut le dire. En 1675, Louis XIV l'anoblit en personne, lui octroyant également les prestigieux ordres de Saint-Michel et de Saint-Lazare. En guise de reconnaissance, Lenôtre, fin collectionneur, lui offrira avant sa mort de nombreuses œuvres d'art. André Lenôtre meurt en 1700 à l'âge de 87 ans, laissant une fortune considérable à ses héritiers. Des héritiers qui sont ses neveux et nièces qu'il adopta, alors que ses trois enfants, qu'il eut avec son épouse Françoise Langlois, sont tous morts étant jeunes. La lignée des jardiniers Lenôtre s'arrête alors à sa mort. Mais leur nom, grâce à lui, restera à jamais immortel.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'André Lenôtre, nous sommes avec Alain Baraton, le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour Alain Baraton, comme André Lenôtre, les jardins de Versailles n'ont aucun secret pour vous. D'ailleurs, vous fêterez l'année prochaine vos 40 ans à la tête des jardins de Versailles. Oui. Comment cette histoire a-t-elle commencé ?
En 1976, quand je découvre un job d'été caissier, je découvre à cette occasion un château, un parc, une histoire extraordinaire. Je pensais rester quelques petits mois, je suis toujours à Versailles. C'est la découverte de ce lieu qui m'a donné vraiment envie d'être jardinier.
C'est incroyable. Alors André Lenôtre a réalisé ses jardins dits à la française il y a plus de 400 ans maintenant. Qu'est-ce qui les caractérise quand on n'y connaît rien comme en jardinage, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qui caractérise un jardin à la française et comment vous faites pour en garder l'esprit encore aujourd'hui ?
Alors la caractéristique du jardin de Lenôtre, c'est ce mélange subtil du minéral et du végétal. À proximité de la demeure, il y a une sorte d'équilibre véritablement orchestré. Et plus on s'éloigne de la demeure et plus le minéral semble disparaître au profit de la végétation. Et puis bien sûr, cette manière qu'il a de mettre en scène la statuaire, la fontainerie, les buis taillés en broderie, c'est vraiment la marque d'André Le Nôtre. Et aujourd'hui, pour garder l'esprit des Jardins à la Française, il faut tout simplement garder l'esprit du concepteur, les perspectives, le regard qui porte loin, cette envie de découvrir dans les bosquets les surprises, car le jardin d'André Le Nôtre, ce n'est pas qu'un agencement de plantes, ce n'est pas que des sculptures végétales, c'est aussi un aménagement de surprises. On va de surprise en découverte quand on est dans un jardin signé André Le Nôtre.
Oui, au fond, la touche Le Nôtre, c'est ça. C'est des jardins à la française où le roi voulait à la fois dompter la nature. Donc, c'est de l'ordonnancement, en quelque sorte. Et il faut qu'on aille de surprise en surprise. Que le « wow » effet, comme disent les Américains.
Comme on disait à l'époque.
Oui, le « wow », comme vous dites, est fait à peine arrivé à Versailles. Imaginez le provincial qui découvre ce château. Il a traversé un pays qui est fait de landes, de forêts, de marécages. Et il arrive dans un espace où la nature est totalement domestiquée. Les arbres sont taillés dans un garde-à-vous impeccable. Pas une mauvaise herbe n'apparaît. Donc c'est la domestication de la nature, une nature qui semble obéir au jardinier, donc au roi. C'est vraiment le jardin absolu, c'est le jardin de pouvoir.
Est-ce que les jardins ont évolué avec je sais pas, de nouveaux arbres, de nouvelles plantes qui n'existaient pas à l'époque, ou qu'on n'avait pas importé en tout cas? Quelle a été votre touche personnelle?
Alors déjà, sous Louis XIV, ils évoluent. On va y planter par exemple des marronniers, arbres extrêmement rares à l'époque qui valent une fortune, pour montrer la richesse et la puissance du roi. On va y introduire également des tulipiers de Virginie. Toujours très chic de faire appel à des plantes qui viennent de loin. Et puis de temps en temps, les maladies déciment les âmes, comme les ormes. Il a bien fallu remplacer ce qui était la structure même du jardin à la française. Les tilleuls vont faire leur apparition. Et aujourd'hui à Versailles, les aliments sont majoritairement composés de tilleuls, mais on y trouve aussi des peupliers, des hêtres, des marronniers que nous replantons, quantité de végétaux pour diversifier justement et éviter que si demain une maladie venait à s'abattre sur le domaine, tous les arbres ne soient contaminés.
Oui. Alain, vous êtes un amoureux des jardins et vous le prouvez dans votre dictionnaire amoureux illustré des jardins paru chez Plon et Grune Édition. Et vous écrivez que découvrir un jardin, c'est s'imprégner d'une culture. C'est ce que vous vous attelez à faire à Versailles. En somme, c'est plus qu'un jardin, c'est faire rayonner la culture française.
Bien évidemment, d'où l'appellation jardin à la française. Il y a des jardins anglais, des jardins japonais, des jardins hollandais. Le jardin à la française, c'est une culture qui nous est propre. C'est un lieu où le mélange de la statuaire, de la fontainerie, où tous les arts sont représentés, est concentré dans un espace réduit, ouvert sur le monde extérieur. C'est l'esprit même du jardin à la française.
Mais au fond, ce qui est assez amusant, c'est que quand vous allez d'un château à l'autre en France, on trouve toujours des dessins de Le Nôtre. On a l'impression qu'il était le seul jardinier qui travaillait. Il faut dire que le roi l'avait employé. Mais c'est vrai qu'on ressort des dessins de Le Nôtre pour refaire des jardins partout en France. Au fond, il faisait quoi? Il domestiquait, c'est-à-dire qu'il y avait des marécages, des prairies. Et lui, il s'acharnait. Comment il s'y prenait pour assécher ces marécages, pour domestiquer même l'eau, puisque à Versailles, pour le Grand Canal, on détourne des rivières, comme à Maintenon, par exemple.
Mais vous parlez du Grand Canal, un parfait exemple, à savoir, Louis XIV va utiliser l'eau à Versailles, présent un petit peu partout. Yvelines voulait dire en Celte, riche en eau. Il va canaliser cette eau et en faire une pièce d'eau qui permettra au roi d'offrir des spectacles nautiques incroyables, mais également aujourd'hui des réserves en eau indispensables pour le fonctionnement des fontaines. Donc Le Nôtre va s'entourer de quantités de spécialistes, son aura va faire en sorte qu'effectivement, il est bien difficile de se faire un nom du temps d'André Le Nôtre, à l'exception peut-être de Jean-Baptiste de la Quintinie, mais entre hommes.
Mais enfin, c'est le potager,
et
surtout
puis,
lui.
Et puis, il y avait une certaine rivalité. Mais il est vrai qu'André Le Nôtre a mis la main sur cette corporation qu'il va totalement diriger. Claude Degault, qui est en charge de Chantilly, est le petit-neveu d'André Le Nôtre. Le Bouteux, qui fait les merveilles à Trianon, a épousé une nièce d'André Le Nôtre. Donc, pour faire très simple, si l'on veut briller à l'époque de Le Nôtre, il vaut mieux être proche de sa famille.
Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec, j'ai l'impression qu'on parle d'Alain Ducasse dans la gastronomie, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige plein de restaurants étoilés. Il était un peu au-dessus. Lui-même, il ne mettait pas la main à la pâte. J'imagine qu'il ne coupait pas les mauvaises herbes. Il avait des jardiniers en chef en dessous de lui. Non, enfin,
mais
partout.
Cette image est très juste. Effectivement, comme Alain Ducasse, eh bien, il va mettre sa patte, il va mettre sa signature. Quantité de jardins ont été supervisés, signés par André Le Nôtre, alors qu'en fait, il a donné l'impulsion, voilà, il a donné l'esprit. Voilà, un peu comme un grand maître qui finalement va achever un tableau, alors qu'il a eu des quantités d'apprentis qui travaillent pour lui.
Je l'ai dit, Le Nôtre avait la faveur du roi et même son amitié. Et c'est rare, d'ailleurs, ils sont très peu. On a souvent parlé ici de Lully, qui avait l'amitié du roi, et il y a le nôtre. C'était une relation très proche, même si parfois le nôtre pouvait agacer le roi, parce qu'il le trouvait trop lent, non ?
À juste titre. Quand le nôtre...
Oui, mais ça, il faut que ça pousse. Comme...
Oui, bah, oui, mais quand le nôtre, en présence du roi, qualifie Mansart de chat de maçon, il a quand même de quoi, de temps en temps, créer quelques conflits. Le nôtre, par exemple, quand il va être anobli, va choisir pour emblème, pour son blason, le limaçon, pour rappeler qu'effectivement, il est peut-être lent, mais c'est surtout la nature qui est lente. Par contre, ce qui est sûr, et ce qui fait ma fierté, c'est que André le nôtre était à la cour la seule personne devant laquelle Louis XIV se découvrait. Et moi, l'idée que le roi, le plus grand roi de tous les temps, ne se découvrait que devant son jardinier, ce n'est pas pour me déplaire.
C'est ce que fait la présidente de Versailles quand elle vous salue dans les jardins. Elle se découvre aussi.
Elle ne se découvre pas. Nous nous inclinons respectueusement, mais je crois que Catherine Pégard, effectivement, a conscience de la beauté et de l'importance des jardins.
Stéphane le racontait dans le récit, André Lenôtre était issu d'une famille de jardiniers, jardiniers de père en fils. C'était aussi une vocation profonde chez lui à la base, ou il s'est retrouvé dans le jardin par obligation quelque part.
Eh bien, je crois qu'il a choisi ce métier pour vivre. Son rêve à lui, c'était d'être peintre. Il suivait les cours de Simon Vouet au Louvre. Il aurait adoré être peintre. D'ailleurs, on retrouve dans les dessins d'André Lenôtre cette passion de la perspective, cette passion du détail. Mais Lenôtre a eu une carrière contrariée, mais une belle carrière toutefois, en devenant le plus grand jardinier de tous les temps. Mais il voulait être peintre. On a trop tendance à l'oublier.
Alors, Alain Baraton, il y a Versailles, évidemment. Vous avez une... Si on oublie Versailles, c'est difficile. Mais Chantilly, Sceaux, Vaux-le-Vicomte, Jean de Bataille, quel est votre jardin de Lenôtre, imaginé par Lenôtre, qui vous plaît le plus ?
Eh bien, avant de vous répondre, je vais déjà vous dire celui que Lenôtre lui-même préférait. Il écrit au duc de Bentinck, qui est son homologue anglais, dans les années 1686. Et il l'encourage à venir découvrir les jardins de France. Et il dit, venez découvrir Versailles, Vaux-le-Vicomte, Saint-Cloud et surtout Chantilly. Je crois donc que le jardin préféré d'André Lenôtre, c'est à Chantilly. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai une tendresse particulière. Vous en avez superbement parlé tout à l'heure. Pour Vaux-le-Vicomte. Quand on arrive à Vaux-le-Vicomte, quand on découvre ce château, quand on voit ce jardin, on ne peut être qu'admiratif du talent d'André Lenôtre. C'est là où vraiment il a excellé, c'est là où toutes les proportions sont extraordinaires, et tous les jardins à la française vont finalement s'inspirer bien sûr d'André Lenôtre, mais surtout de Vaux-le-Vicomte.
Oui, sauf qu'à Vaux-le-Vicomte, aujourd'hui, comme il y a cette maladie des buis, tous les buis, la broderie de buis sur la première terrasse, en quelque sorte, a été...
C'est quand même joli, Stéphane.
Imaginez. Non, il y a un problème. En France, on a un problème avec les broderies de buis à cause de la maladie.
Peut-être l'occasion de saluer la famille de Voguet qui a merveilleusement su remplacer les buis par une œuvre contemporaine. Une manière de ne pas détourner, j'allais dire, l'esprit d'André Lenôtre et d'attendre simplement que la maladie ne soit plus qu'un lointain souvenir pour remettre des buis. Cette représentation, finalement, est assez subtile.
Mais vous nous direz ce qu'on peut faire contre la maladie des buis.
Bah vous l'avez aussi dans votre demeure, Stéphane.
Oui.
C'est un petit Vaux-le-Vicomte. C'est joli. Hein. Le nôtre disait que c'était son jardin préféré.
250,
c'est pas le nôtre,
250 hectares en plein Paris.
C'est rarissime, effectivement.
Merci en tout cas, Alain Baraton, de nous avoir emmenés en promenade dans les allées de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. Je précise que vous nous emmenez aussi en balade grâce à votre magnifique dictionnaire amoureux illustré des jardins, qui est paru chez Plon et Grund.
Ici Europe 1. 16h-18h
sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui parfois nous dégoûtent. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, je ne sais pas si ça va nous dégoûter, mais en tout cas, ça goûte. Puisque vous nous racontez... Vous nous racontez cette maladie qui touchait nos seigneurs et nos rois parce qu'ils mangeaient trop richement.
Oui, cher Stéphane, vous avez avalé l'almanach Vermeaux ou un dictionnaire des contrepétris. Tous les messieurs souffraient de la goutte et justement, ça m'a donné envie d'en savoir plus.
Plus sur les hommes que les femmes, d'ailleurs.
Plus, bien sûr, tout à fait. Ah, ça fait partie des injustices de la génétique. À nous, la cellulite, à vous, la goutte, que vous voulez. Alors, autrefois, les gens du peuple mangeaient très peu de viande. Donc, la goutte, c'était considéré comme la maladie des nantis. des sédentaires. Et aujourd'hui, un médecin vous dirait que c'est une maladie inflammatoire de l'articulation. C'est très douloureux et c'est dû à un taux d'acide urique dans le sang trop élevé. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'hyperuricémie. Ce qui, en fait, à partir d'une certaine concentration d'acide urique dans le sang, des cristaux se forment dans l'articulation. Cette maladie a été identifiée il y a fort longtemps, puisque Hippocrate en parle déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, et il appelle ça podagre. Podagre, en grec, qui n'a aucun secret pour vous, ce mot signifie pris par le pied. Pourquoi ? Parce que c'est presque toujours le gros orteil qui est le premier
touché.
Membre. Voilà, ça se manifeste par le pied. Et ce mot podagre, en fait, est constitué de pousse le pied et agra la chasse. Pourquoi ? Parce qu'à la chasse, si vous prenez un animal au piège, il est pris par le pied. Alors après, c'est Ambroise Paré qui a commencé à appeler ça la goutte plutôt que utiliser le terme podagre, parce que on pensait, selon dans une conception très ancienne, c'est qu'en fait il y avait un poison, les humeurs. Ce qu'on appelait dans les humeurs malignes, les humeurs mauvaises, et qui vous tombaient comme ça, goutte à goutte, sur les articulations comme un supplice chinois. Tous les messieurs, enfin les plus grands personnages historiques, presque tous ont souffert de la goutte. Alexandre le Grand, de même que l'empereur romain Septime Sévère. Un jour, un individu a le malheur de le moquer sur sa boiterie, il le fait pendre. Il lui dit « Sachez que c'est la tête qui commande et non les pieds. » Ah, il avait de l'esprit, Septime Sévère. Charlemagne
il
avait de la goutte. Charles Quint a commencé à souffrir de la goutte à l'âge de 28 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement une maladie qui intervient sur le tard. Et pour Charles Quint, on est parfaitement documenté, car comme nous avons à l'Escurial l'intégralité de sa dépouille momifiée, on a pu faire des radiographies de ses doigts de pied en 2004. Goutteux aussi son fils, Philippe II d'Espagne, Henri VIII, Louis XIV, Louis XVIII, bien sûr, dont le fauteuil roulant est conservé au château de Verneuil. Le roi podagre, dans l'histoire de France, c'est vraiment par excellence Louis XVIII.
Mais en fait, c'est parce qu'ils chassaient tous. Ben et donc, oui. Ils mangeaient trop de viande.
Mais bien sûr, trop de viande, trop de vin, c'est ça. Et en particulier, trop de Bourgogne. Benjamin Franklin, Isaac Newton, Darwin, le Grand Condé, Martin Luther, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Mazarin, tous goutteux, vous dis-je, et tous durs souffrir, mort et passion. Car la goutte est, paraît-il, extrêmement douloureuse et tellement que les malades ne supportent même pas la présence, le contact d'un drap sur leurs pieds, tellement ils souffrent. Au grand siècle, c'est, vous le disiez, trop de gibier, trop de vin. Donc la goutte est très répandue. Elle est cité dans une fable de La Fontaine, le lion, le loup et le renard. Un lion décrépit, goutteux, n'en pouvant plus, voulait que l'on trouvât remède à la vieillesse. La Fontaine dû en souffrir lui-même parce qu'il se plaignait que la goutte, les médecins n'y comprennent goutte. Hein, c'était pas ce qu'il a produit de meilleur, mais il devait avoir très mal à ce moment-là. Alors, l'historien Gosselin Lenôtre nous invite à essayer d'imaginer que nous sommes un personnage aisé, contemporain d'Henri IV ou de Louis XIV, dans un texte où il écrit « Vous passez quotidiennement 8 heures à table, absorbez 10 livres de viande, comprenez 5 kilos, c'est quand même incroyable, et ne buvez que du vin de Bourgogne, les autres étant dédaignés par les gens de bon ton. Voici la goutte. Que va-t-on faire ? Les médecins accourent à votre chevet, bien sûr, un peu comme dans le malade imaginaire. Ils se déplacent en troupe, ils dissertent entre eux, de préférence en latin. À aucun moment ils ne vous auscultent. Vous en êtes réduit à écouter depuis le fond de votre lit une sorte de conférence dont vous êtes le sujet, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et conclusion, on vous administre le seul remède connu, la saignée. On suit à la lettre la maxime de Bottal, un médecin italien qui dit « Plus on tire d'eau croupie d'un puits, plus il en revient de bonne. » Ensuite, hop, on purge. En une seule année, Louis XIII est saigné 47 fois et purgé 259 fois. Si après toutes ces saignées et purges, vous êtes encore en vie et que vous souffriez encore de la goutte, on vous entoure la jambe d'un cataplasme de crottin de cheval. L'un des médecins qui a alors pignon sur rue propose de soigner la goutte en mélangeant une oie grasse hachée avec des chatons.
Ah,
quelle horreur. C'est affreux, ben oui, désolé, mais c'est ça. Hein. Et s'il en restait, il fallait badigeonner avec le reste, l'orteil endolori, par la goutte. Pour Charles Quint, alors là, lui, c'est remède de schtroumpf, on lui donne de la salse pareille.
Non.
Eh oui.
Comme dans l'histoire.
Alors écoutez, messieurs, très mauvaise nouvelle. La goutte n'a pas disparu. Au contraire, elle est en pleine recrudescence.
Mais non, pourtant les gens mangent moins de
viande. Mais c'est pas ça, Stéphane. Sous le nom de rhumatisme microcristallin, autour de 600 personnes en France et 8 millions d'Américains en souffrent. Responsable, non pas la viande, Stéphane, c'est pas ça tellement le problème. Ce sont les sodas sucrés qui favorisent la production d'acide urique. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que même des sujets maigres et végétariens peuvent en être affectés parce qu'il y a dans la goutte un facteur génétique. Hein. C'est l'incapacité des reins à éliminer l'acide urique. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous dégoûter
de la vie, et surtout de
ne plus manger de viande alors que vous pouvez avoir de la goutte.
Oui, c'est terrible.
Merci Clémentine. Voilà, la main verte et le pied rouge. Merci.
Vous restez avec nous, le pied rouge. Tout de suite, c'est le quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Un grand 8 émotionnel. Voilà comment Stéphane décrira dans un futur lointain l'épreuve du quiz où il a cru si souvent avoir gagné alors que non.
Oh non ! Je voulais répondre oui parce que j'ai pensé qu'il y avait un piège, double piège. Oh là là,
que d'émotions. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, vous allez peut-être gagner. Alors, lors du sacre de Napoléon en 1804, l'empereur a utilisé une couronne de laurier, Stéphane, ainsi qu'une vraie couronne. Cette dernière avait été portée par Charlemagne. Vrai ou faux ?
Alors, je ne crois pas qu'on ait sorti. Alors, je peux dire une énormité, mais.
Oui, faites attention, Stéphane.
Il a tout fait faire par.
C'est pas Biennet ou Audiot ?
Biennet et Babst. Il a fait faire tous les diadèmes pour ses sœurs, pour la couronne pour l'impératrice. Je ne crois pas qu'il ait utilisé la couronne de Charlemagne. Je réponds, c'est faux. Il n'a pas utilisé la couronne de Charlemagne.
Vous avez gagné.
Vous n'êtes pas homme qu'on dupe facilement, Stéphane. Effectivement, c'est faux. Elle avait été fabriquée pour Napoléon Ier. En revanche, Joyeuse était là.
Joyeuse.
Qui
était
Joyeuse?
L'épée qu'on a revue il n'y a pas très longtemps.
Ça aurait pu être un petit piège quand même, mais vous êtes tellement fort. Question numéro 2 pour vous, Clément. Avant le 19e siècle, les accoudoirs ne désignent pas du tout sur les fauteuils l'endroit où on met les coudes sur les côtés. Vrai ou faux ?
Ça peut être un accoudoir, si ça n'est pas. Parce que dans les stalles, dans les églises, il y a bien des. Ils sont très anciennes, il y a bien des accoudoirs, enfin des séparations. Ah, est-ce que ça peut être lié à un vêtement, par exemple, et qu'on parlerait de quelque chose pour renforcer les coudes sur un vêtement ? Je pense que cette question n'a pas lieu d'être si c'est ça qui est compliqué.
Je suis d'accord avec vous.
Quel est l'intérêt de la question si un accoudoir...
Toutes les questions ont lieu d'être.
Je vais dire, oui, c'est vrai, un accoudoir ne désigne pas avant le 19e l'accoudoir d'un fauteuil.
Elle dit oui dans le brouillard, a-t-elle raison ?
Vous avez gagné !
Mais oui, c'est une bonne intuition. L'accoudoir était... Quand on parlait le bon français, la partie horizontale située en haut du dossier du siège. Quand Stéphane est sur son prie-dieu, par exemple, il met les coudes sur l'accoudoir. Quand assis dans le studio d'Europe 1, il met ses coudes sur le côté, il les met sur les accotoirs. Voilà comment on parlait la France à l'époque. Question numéro 3. Stéphane, elle est pour vous. Histoire du sport, Stéphane. C'est une question pour vous. Et mieux, Stéphane, histoire du foot.
Ah oui, bah alors là,
histoire du sport dans l'Égypte antique.
Stéphane Guivarch.
Qui est-ce ?
Oh mon Dieu, il ne connaît pas Stéphane Guivarch.
Non, mais je ne connais rien en foot.
C'était le numéro 9 des Bleus en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde.
Le mec, il connaît le joaillier de Napoléon. Il ne connaît pas la Coupe du Monde.
Stéphane Guivarch est
un joueur particulier. Meilleur buteur de l'an avant Guingamp. Deux fois meilleur buteur du championnat de France. Il n'a marqué qu'un but en équipe de France. Un seul. Mais c'était le 1000e but de l'histoire des Bleus. Vrai ou faux ? Faites appel à votre mémoire, Stéphane.
C'est vrai, bien sûr, c'est vrai.
Vous avez perdu.
Cette fois-ci, même la chance ne vous aura pas éclairé.
Non, mais comment voulez-vous que je sache ?
C'est faux. Le 1000e but a été inscrit. Le 1000e but de l'équipe de France est connu des amateurs de football puisqu'il a été inscrit par Emmanuel Petit lors de la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Et 1 et 2 et 3-0. Le troisième, c'est le 1000e but de l'histoire du foot de France.
Non, absolument pas, non.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. La légende dit que pendant le règne de Gengis Khan, on jouait déjà au Bousquetchi. C'est un jeu qui se joue à cheval. Il faut attraper une chèvre décapitée et l'emmener dans une zone qui peut se trouver parfois jusqu'à 2 km. Les adversaires ont des fouets pour vous en empêcher. Eh bien, aujourd'hui, il y a un jeu vidéo où on peut jouer au Buscacci. Vrai ou faux ?
Oh, bah, je le crois volontiers. De toute façon, il faut bien que dans les steppes orientales, on puisse d'une manière ou d'une autre, en utilisant les techniques modernes, prolonger, poursuivre, transmettre une tradition ancestrale. Donc, je réponds oui.
Vous avez...
Hélas, mauvaise réponse. Non, faux, c'est un... Le Buscacci, il n'y a pas encore de jeu vidéo, mais c'est un sport national en Afghanistan. Il remonterait au XIIIe siècle. Les défenseurs aujourd'hui n'ont plus de fouet. Tout se perd.
Ils font ça avec des êtres humains maintenant.
Avec les talibans, tout change. Question numéro 5, c'est la question de rapidité, de vivacité. Attention. À Petrograd, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, que se passe-t-il déjà, vous le savez ?
Bien sûr.
Mais évidemment, Grégory Raspoutine est assassiné. On le retrouve dans la Neva, tout gelé, le visage défoncé de coups, le corps criblé de balles, dont une dans le front. Mais selon le premier rapport d'autopsie officiel, de quoi est-il mort ? Selon le premier rapport officiel, attention, de noyade, de rhume ou de migraine ophtalmique ?
3.
Stéphane, réponds donc. Stéphane, spécialiste de l'histoire de la Russie. Vous avez proposé la migraine ophtalmique. C'est-à-dire que le médecin légiste serait penché sur la dépouille du mec qui avait gratté sous la
gueule. Oh, un petit tel cassé le zèle.
Parce que la noyade, c'est ce que... Je pensais qu'il y avait un piège, comme toujours, chez vous.
Oui, mais là, quand même.
C'est toujours pareil. Et donc...
Il est mort d'un panari sous la glace.
C'est bête. Hein. Une aspirine et il était sauvé.
La famille
Rasputin.
Mais qui n'avez-vous pas connu ?
Il avait...
Bon, Stéphane, tout ça est désolant. Et d'autant que la réponse, la noyade, c'était donc la solution du premier rapport d'autopsie, premier rapport d'autopsie.
Mais en fait, non.
On n'a pas retrouvé d'eau dans les poumons. Donc, en fait, c'est la balle dans le front qui l'aurait tué. C'est ce qui a été analysé plus tard.
J'ai gardé le souvenir qu'on avait trouvé de l'eau. On avait compris qu'il s'était noyé, qu'il avait vraiment bataillé pour essayer de sortir. Oh, je vais aller regarder ça de plus près.
En tout cas, il est mort.
Et en tout cas, il est mort. Et vous aussi, quelque part, Stéphane, puisque vous avez perdu dans le quiz. Clémentine qui l'emporte.
Ça n'est pas très grave, vous
savez. Non, vous renaîtrez demain de vos cendres, tel le phénix.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission où l'on rit de l'histoire et où Stéphane Bern rit de moi.
Enfin, son vous grand riez jeu, de moi aussi.
Oui, c'est parfois, mais parfois c'est l'inverse comme aujourd'hui. Son grand jeu, me refiler des portraits de personnages, disons, un peu moins fameux que les siens. Rappelez-nous le thème du jour, Stéphane.
Oh, les mains vertes. Après le roi des jardiniers et le jardinier du roi, André Le Nôtre, je vous raconte le destin de Béatrix Farran, l'une des paysagistes les plus influentes de son temps, avec des clients célèbres comme les richissimes Rockefeller, et qui lui ont demandé de concevoir leurs parcs et jardins. Et bizarrement, elle a dit oui. Et vous, Mathieu, vous avez aussi dit oui. Parmi les contemporains, vous avez trouvé des personnages à la main verte.
Bien, bah oui, bien sûr, Stéphane. Les Tortues Ninja, pardi. Oui, même si ça vous fait marrer, je peux me rabattre sur le portrait d'Ignacio, votre jardinier portoricain que vous payez en cash.
Non, en fait, c'est très bien les Tortues Ninja.
On reste là-dessus.
Je suis sûr que ça va passionner nos chroniques. Regardez, David Cassel Lopez a déjà... Bah déjà, il a une tête à aimer les Tortues Ninja.
Tout à fait. Mais oui, c'est la génération, hein. C'était vraiment pile poil. Je vais vous parler d'une méthode d'investigation journalistique révolutionnaire qui est en train de révolutionner le journalisme, qui s'appelle l'OSINT. Voilà.
Olivier Pouls, c'est avec nous aussi, Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, une recette qui vous tient particulièrement à cœur, puisque vous l'avez découverte l'autre jour, hein, on peut le dire.
Oui, et j'avoue que c'était une belle découverte. C'est presque encore l'heure du thé, là, les amis.
Ah oui, it's tea time.
Vous avez été méritant.
Mon mérite.
Est-ce que vous voudriez partager avec moi un délicieux plum cake?
Pour une fois, vous apportez de la nourriture.
Ouais.
Hélas, c'est connu, les amis, le plum cake n'améliore en rien les capacités cérébrales. La preuve, Castello en a commandé 5 l'autre jour et il se fait toujours rétamer dans la lutte finale. Ce face-à-face entre Pouls, David et votre serviteur, ce sera juste avant la fin de l'émission. Mais tout de suite, les amis, découvrons la vie de notre deuxième personnage qui avait la main verte. Stéphane Bern nous raconte les Tortues Ninja. Non, je déconne. Oui, vous serez bien embarrassé. Hein. Non, direction les États-Unis. Stéphane Bern nous raconte la pionnière à la main verte, Béatrix Farran.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais ce n'est pas le cas de certains des grands personnages pour qui Béatrix Farran a travaillé. Les présidents Thomas Woodrow Wilson et Theodore Roosevelt ou encore John Rockefeller Jr. ou des grandes universités aussi, Princeton, Harvard, Yale. Et si elle a su séduire les plus grands, Mathieu, c'est pour son sens aigu de la conception paysagère et sa connaissance approfondie de l'horticulture. Pour s'en persuader, il n'y a qu'à visiter l'un des joyaux méconnus de Washington qu'elle a réalisé, les jardins de Dumbarton Oaks. Sur les hauteurs du quartier huppé de Georgetown, au cœur de la ville, se cache un Éden insoupçonné, une oasis de 4 hectares organisée en chambres de verdure cascadantes en terrasse. Imaginez une profusion de couleurs et de senteurs florales. Azalées, chrysanthèmes, magnolias, glycines, vignes grimpantes, des allées serpentines au hasard desquelles se découvrent des jets d'eau, une fontaine italienne, une prairie de fleurs et même un amphithéâtre romain. Vous avez peut-être en tête les sublimes jardins de la Villa Efruzzi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Eh bien, sachez que selon National Geographic, ceux de Dumbarton Oaks sont encore plus beaux. Le magazine les place en 6e position de leur classement des plus beaux jardins du monde. Et on serait tenté de leur faire confiance, sachant qu'ils décernent la première place au Versailles de Le Nôtre, ah, dont on parlait déjà tout à l'heure.
C'est sérieux comme classement.
Les jardins de Dumbarton Oaks sont signés de la main d'une autre grande artiste, Béatrix Farrand, donc, architecte paysagiste. Ou plutôt, devrais-je dire, jardinière paysagiste, car c'est ainsi que cette pionnière, qui a joué un rôle important dans l'histoire du paysagisme aux États-Unis, préférait qu'on la décrive. L'histoire de cette ascension commence dans la haute société new-yorkaise. La petite Béatrix naît le 19 juin 1872. Elle ne s'appelle pas encore Farrand, mais Jones. Elle gardera d'ailleurs son nom de jeune fille jusqu'à son mariage à l'âge de 41 ans. Ses parents sont tous les deux issus de familles très riches. S'il n'y a pas grand-chose à dire sur son père, qui disparaîtra de sa vie après son divorce quand Béatrix aura 10 ans, sa mère, en revanche, Mary Cadwallader Rowell, est une figure de proue parmi le petit cercle des élites de la ville. Les salons d'artistes qu'elle organise chez elle sont très réputés. On y croise les plus grands auteurs et artistes du moment, comme Augustus St. Gaudens, l'un des pères de la sculpture américaine moderne, le romancier et historien Henry Adams ou encore Edith Wharton, la tante de Béatrix, une romancière célèbre, qui fut la première femme à obtenir le prix Pulitzer du roman. Outre cet amour des arts, Béatrix hérite aussi d'une autre passion familiale, le jardinage. Elle aura coutume de dire plus tard qu'elle était le produit de 5 générations d'amoureux du jardin. Ce penchant, sa mère et elle s'y adonnent dans leur propriété secondaire de Reef Point, où elles passent tous leurs étés. Ce domaine isolé, situé sur l'île des Monts Déserts, dans l'état du Maine, joue un rôle essentiel dans la vie de Béatrix. C'est là, dans ce jardin soumis au vent de l'Atlantique, que naît sa passion du jardinage. Là aussi que prend vie son amour des plantes indigènes, l'une de ses marques de fabrique. Là encore, qu'elle fait ses premières armes de paysagiste en assumant dès l'adolescence la gestion des parterres. Car très vite, la jeune Béatrix n'a plus qu'une idée en tête, devenir paysagiste. Mais comment ? Il n'existe à cette époque aucune école spécifiquement dédiée. Alors Béatrix se forme à sa manière, en autodidacte et sur le tas. Elle a également la chance, en 1893, à l'âge de 21 ans, de faire la rencontre d'un certain Charles Sprague Sargent, un botaniste et professeur d'horticulture à Harvard, auprès de qui elle suit une sorte d'apprentissage informel. Je dis la chance, car il semble qu'il ait été l'un des rares à cette époque à croire en elle. Oui, car un autre obstacle de taille se dresse entre elle et une carrière de paysagiste. Un plafond de verre. Le monde du paysagisme est alors exclusivement masculin. Pour preuve, en octobre 1893, à l'occasion de l'exposition universelle, Béatrix fait la rencontre d'un célèbre paysagiste de l'époque, Frederick Law Olmsted. Il n'aura que du dédain pour elle, la faisant passer pour une dilettante auprès de ses pairs. Grossière erreur. À peine 6 ans plus tard, Béatrix Jones, c'est ainsi qu'elle s'appelle à l'époque, sera devenue incontournable. Mais pour l'heure, Béatrix part un temps faire le tour de l'Europe. Puis à son retour, 2 ans plus tard, elle lance son entreprise. Elle a 23 ans. Et très vite, sa carrière décolle. Les clients qu'elle parvient à glaner parmi des amis de sa famille font marcher le bouche à oreille. Son style élégant, riche de détails architecturaux et privilégiant les plantes indigènes, lui attire de nombreuses propositions. En 1899, sa réputation a fait le tour de l'Amérique. Tant et si bien que Béatrix est choisie pour devenir l'une des fondatrices de la Société américaine des architectes paysagistes. Elle est la seule femme. C'est la consécration. Puis les projets s'enchaînent. surtout dans le domaine privé, car les grands projets publics restent réservés aux hommes. L'architecte paysagiste Diane McGeer, cité dans le New York Times en 2003, aura ces mots à son sujet. Béatrix Farran était une conceptrice exceptionnelle. Elle avait un sens aigu des proportions et une grande force dans ses dessins. Mais parce que c'était une femme, elle n'a pas eu les mêmes opportunités que les hommes. Ils concevaient des parcs publics, elle devait se cantonner au domaine privé. Sa carrière n'en sera pas moins prolifique. 50 ans et plus de 200 jardins. Parmi ses plus fameuses réalisations, citons la Maison Blanche, où elle réalise des jardins pour la première dame durant le mandat de Woodrow Wilson. Pour un autre président des États-Unis, Theodore Roosevelt, elle conçoit quelque chose de moins réjouissant, sa pierre tombale. Plusieurs campus universitaires furent également l'objet de ses travaux, une douzaine au total, dont Yale, Harvard, Princeton ou encore l'Université de Chicago. Là encore, il n'en reste quasiment rien. De son œuvre, il ne subsiste véritablement que deux grands jardins, encore dans leur quasi-totalité intacte. Le jardin Abby Aldrich Rockefeller, anciennement la résidence d'été de la famille Rockefeller, considéré comme l'un des joyaux paysagistes des États-Unis, et son chef-d'œuvre que je vous ai décrit, la fameuse propriété de Dumbarton Oaks à Washington, considéré aujourd'hui comme l'un des plus beaux jardins du monde.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour essayer de mieux connaître Béatrix Farran, nous sommes avec l'architecte paysagiste Laure Cognam. Bonjour Laure.
Bonjour.
Bonjour Laure Cognam, vous avez réalisé de nombreux aménagements partout en France. On vous doit notamment la réhabilitation du pont du Gard, la restauration du parc d'Ancy-le-Franc ou l'aménagement du quai de la Râpée à Paris. Dans votre livre Le champ d'en face, vous êtes l'une des rares à mentionner le travail de Béatrix Farran. Pourquoi la connaît-on si peu en France ?
Déjà, on ne connaît pas beaucoup d'architectes paysagistes de la fin du 19e et du 20e en France.
Elle, Béatrix Farran, bon, Stéphane l'a raconté, c'était vraiment une pionnière puisqu'elle a été la première femme à s'illustrer dans le paysagisme aux États-Unis. Est-ce que c'est juste un fait historique ou c'est une source d'inspiration pour vous encore aujourd'hui, ces travaux ?
C'est plus qu'un fait historique, oui, elle m'a beaucoup inspirée, mais c'est surtout la femme et la professionnelle qui m'ont inspirée. Plus que la créatrice, sauf pour son jardin dans le Maine, à Sillerbourg. Mais c'est une femme qui avait une passion pour son métier, elle avait un regard artistique, elle avait une ténacité extraordinaire. Quand vous pensez que Dumbarton Oaks, par exemple, je crois que c'est plus de 25 ans de travail continu, et pour la résidence des Rockefeller, c'est entre 26 et 50, pareil, vous voyez.
Comment pourrait-on, l'organisme, définir le style de Béatrix Farran ? Où est-ce qu'elle a puisé l'inspiration pour réaliser ses jardins ?
Alors déjà avec sa formation avec le botaniste Sargent, qui lui a tout appris, elle a même habité chez lui hein, pour apprendre, c'était une formation personnelle qu'il lui a donnée. Et puis ensuite, elle est partie en Europe. Elle a fait tout un tour. Elle est arrivée par le sud de l'Espagne. Elle a vu les jardins espagnols, les jardins italiens, les jardins français. Et puis elle est allée en Angleterre. Et en Angleterre, elle a rencontré Gertrude Jekyll, ainsi que William Robinson. Gertrude Jekyll, c'est une femme qui a révolutionné l'art du jardin en Angleterre, notamment en travaillant les associations de couleurs de plantes. Donc elle-même a puisé chez cette innovatrice beaucoup d'idées, elle était très en accord avec ce monde. Et quand vous avez fait un grand tour du monde, déjà, enfin en tout cas de l'Europe des jardins, et que vous revenez dans votre propre pays, il y a une façon d'assimiler les choses qui fait qu'aux États-Unis, cette femme, une des premières donc, à assimiler cette originalité, et ça se ressent dans ses jardins.
Stéphane le racontait, Béatrix a travaillé avec des noms célèbres aux États-Unis comme la famille Rockefeller. Mm-hmm. À quoi ressemble le jardin Abby Aldrich Rockefeller qui existe encore aujourd'hui ?
Alors, déjà, il faut imaginer qu'elle va implanter un jardin dans le Maine. Hein. Donc, c'est un paysage qui ressemble un peu à l'Écosse. Et l'histoire drôle, c'est qu'il revenait d'Asie et il voulait un jardin qui soit asiatique. Et elle n'avait jamais été en Asie. Donc ça donne quelque chose d'extrêmement singulier. Alors je peux vous le faire parcourir si vous voulez. Vous arrivez dans un jardin qui est donc asiatique, c'est-à-dire c'est un grand chemin, une allée de sculptures d'ancêtres C'est à l'ombre, sous les pins, il y a une ambiance comme ça extrêmement mystérieuse. Et puis, il y a un petit chemin sur le côté qui a l'air de rien du tout. On l'emprunte parce que voilà, c'est amusant de l'emprunter. Et là-dessus, on tombe sur un mur rose dans lequel il y a un trou comme font les Chinois, c'est-à-dire un grand rond. On passe ce rond, c'est une porte, hein, on chevauche le rond. Oui. Et on rentre dans un autre jardin complètement différent parce que lui, il est tout à fait sous la lumière. Et là, elle a travaillé tout un parterre avec ses jeux de couleurs. Et c'est un grand rectangle où il y a d'un côté les couleurs chaudes, les bleus, les violets, et de l'autre côté, des couleurs froides. Non, je me suis inversée, hein, des couleurs, les bleus, non, puis les couleurs rouges, vous avez compris.
Vous décrivez de telle sorte qu'on n'a aucune envie, c'est, ah oui, c'est d'y aller. J'avais une question un peu personnelle, Laure Cognam-Sey. On voit que Béatrix Farran a dû lutter terriblement parce que à elle, les jardins privés et les hommes se réservaient les jardins publics. Est-ce que peut-être vous vous êtes senti une certaine... comment dire, connivence avec cette femme qui a dû lutter pour imposer ses vues, pour devenir une paysagiste. Est-ce que vous avez connu le plafond de verre, vous aussi ou,
oui, c'est bien sûr. Certainement moins qu'elle, parce que voilà, elle est née en 1872. Donc,
il y a un siècle qui vous sépare.
Il y a un siècle qui nous sépare. Mais évidemment que c'est difficile, parce que déjà le métier n'est pas connu, et en plus... très peu de femmes travaillaient. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que les Américaines ont gagné, les suffragettes ont gagné le vote en 1920. Et donc, ça a été vraiment un moment important parce que les femmes ont commencé un peu à travailler à ce moment-là. Et le jardin, tout ça, tout autour, c'était quand même une ouverture pour les femmes. Ce qui est étonnant avec Béatrice, c'est qu'elle l'a menée vraiment comme une grande professionnelle. C'est pour ça qu'elle est une pionnière. Elle avait plusieurs agences. Elle a commencé chez sa mère, au-dessus de leur appartement. Puis après, elle a monté une agence, une autre plus importante à New York. Enfin, elle a mené ça comme nous, on le mènerait maintenant. Donc, évidemment, elle a été confrontée. Moi, quand j'ai fait mes premiers aménagements, par exemple, aussi du Pont du Gard, j'étais la seule femme. Oui. Donc, oui, nous avons... Mais les choses ont quand même évolué. J'ai connu ça, mais quand on est aussi un peu singulier, on se fait remarquer voilà. aussi. C'est-à-dire qu'il y a les deux côtés. Je veux dire, oui, c'est dur, mais aussi d'un autre côté,
mais
si
la
on
ténacité
prend les choses
paye, bien,
bien
sûr. Et vous le disiez à propos de Béatrix Farran. Ouais. En tout cas, merci Laure Cognam de nous avoir emmenés dans les plus beaux jardins d'Amérique. Je rappelle que votre livre, Le Champ d'en face, dans lequel vous revenez sur votre vocation d'architecte paysagiste, est paru aux éditions Gourcuff Gradenigo. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui avaient la main verte. Après Béatrix Farran et André Le Nôtre, vous êtes ravi, Mathieu, de nous parler à présent de personnages contemporains qui avaient la main verte au sens propre, les tortues ninja.
Des conneries, j'en aurais raconté dans cette chronique. Mais cet après-midi, on change encore de braquet, puisque oui, c'est la dernière idée de Stéphane pour me ridiculiser. Et si on demandait aux Suisses de nous parler des tortues ninja? Alors, moi vous me connaissez, je ne mets pas d'ego dans cette chronique. Tant que je suis payé, tant que je peux mettre un peu d'essence dans la Xantia, je m'exécute. Les tortues ninja, allons-y. Qui sait ce qui m'attend demain? Les hamsters judoka, les bichons SM, les lapins nazis. Derrière ce titre oxymoron surréaliste de tortues ninja, qui pourrait être un tableau de Magritte, il y a une BD puis un dessin animé des années 80 dont la genèse reste entourée de mystères. Comment deux garçons, même pas dessinateurs professionnels à l'époque, ont-ils pu imaginer l'histoire de quatre tortues mutantes portant des noms de pizza, apprenant les arts martiaux dans les égouts de New York auprès d'un rat mutant, lui-même prof de taekwondo? Surtout, comment ont-ils pu vendre cette idée? Eh bien, au terme d'une longue enquête, je suis arrivé à cette conclusion. Ben, c'était les années 80. Dans les années 80, tout était possible. Y compris donc créer une série intitulée en anglais Teenage Mutant Hero Turtle, soit Ado Mutant Tortue Hero, dont l'absurdité même est peut-être la clé de la réussite. Puisqu'ici, on se dit tout, j'ai moi-même rêvé d'être un jour une tortue ninja, David aussi.
Ah oui ?
Mais oui, c'est étrange quand on y pense, rêver d'être Batman encore, ok ? Mais rêver de ressembler à une tortue anthropomorphique qui bouffe des pizzas dans les égouts, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ne jugeons pas trop vite l'absurdité d'une idée. À la même époque, en France, je vous rappelle que 5 quadras chelous vivaient avec leur nièce et une extraterrestre en juste corps qui s'appelait Yves Gueux. Salut les musclés, les tortues ninja, inutile de mener une enquête très poussée pour savoir que la drogue ravageait le showbiz à l'époque. Suffit de lire les pitchs des programmes, les scénaristes écrivaient littéralement le nez dans la schnouf. Attention, voici ce qu'on appelle dans le jargon scénaristique la backstory des tortues ninja, c'est-à-dire en gros leur genèse. Tout commence à New York où un certain Amato Yoshi, maître ninja japonais, est assassiné par son rival Oruku Saki. Yoshi canne, mais il a un rat de compagnie qui s'appelle Splinter et qui a eu la bonne idée d'apprendre le ninjutsu en mimant son maître. À la mort de ce dernier, le rat ninja se réfugie dans les égouts où il fait la connaissance de quatre bébés tortues.
Le papa.
Oui, alors c'est pas ça. Des bébés pas tout à fait comme les autres puisqu'ils sont tombés dans un liquide mutagène. Le rat les sauve, reçoit quelques éclaboussures au passage, du coup tout le monde gagne en muscles et acquiert une carrure humaine. Stéphane, on reste avec moi, c'est totalement passionnant. D'autant que c'est le moment où ça part en vrille. Oui, mais jusque-là, tout était à peu près normal. Splinter, le rat, devient le père adoptif des tortues. Il se dit, tiens, puisqu'on n'a rien de spécial à foutre dans les égouts, je vais les former aux arts martiaux, des fois qu'on croiserait des méchants. Et puis, il faut leur donner des noms. Et là, le rat tombe véridique sur un bouquin consacré à la Renaissance italienne, dans les égouts. Les tortues musclées s'appelleront donc Leonardo, Donatello, Raffaello et Michelangelo. Leur look, un bandana. Leur cri de guerre, Kawabunga. À ne pas confondre avec Bunga Bunga, un autre cri de guerre de l'époque de Silvio Berlusconi. Leurs ennemis, des ninjas méchants, des extraterrestres, parfois même des ninjas extraterrestres. Un grand n'importe quoi qui prend forme en 84 dans le cerveau de deux copains de lycée qui, si vous voulez mon avis, ne devaient pas fumer que des cigarettes en chocolat. Kevin Eastman et Peter Laird adorent les comics et un soir, certainement après un bang un peu plus chargé que d'habitude, ils se mettent à délirer sur le thème « Essayons d'imaginer le héros le plus ridicule du monde ». Kevin dit « Tiens, c'est quoi l'exact inverse d'un ninja ?» Peter tire sur une latte et dit « une tortue ?» Les deux compères se bidonnent, se font une petite soufflette pour fêter ça et, fiers de leur connerie, décident d'en faire une BD. Une BD qui sera bien sûr un one-shot. Hein. Ils sont jeunes, ils sont fous, mais ils savent bien que jamais personne ne les suivra dans un délire de tortue ninja au-delà d'une BD. Et pourtant, ils ne le savent pas encore, mais on va en bouffer de la tortue stéroïdée. Car leur coup de génie, c'est de ne pas avoir sonné à la porte des grandes chaînes de télé de l'époque en leur disant « Eh les gars, si on faisait un dessin animé sur 4 tortues crypto-gays qui font du kung-fu », mais d'avoir présenté leur BD dans un salon ultra pointu d'amateurs de comics à Portsmouth, en Angleterre. Car contrairement aux décideurs des grandes chaînes de télé, les amateurs de comics pointus, eux, aiment ce qui sort de l'ordinaire, voire ce qui paraît complètement cinglé. Le phénomène Tortue Ninja est né, le tome 1 est réédité pour faire face à la demande en librairie, et Kevin et Peter s'attellent au tome 2. Différents éditeurs et agents commencent à se battre pour verrouiller les droits. C'est un certain Mark Friedman qui remporte la mise et commence à démarcher les fabricants de jouets pour lancer des produits dérivés. Devinez qui dit non à l'époque ? Walt Disney. Il trouve ça tout pourri, les tortues ninja. Grotesque même, c'est sûr que lui, il a fait fortune avec une souris en slip qui parle, dont le meilleur pote est un canard sans pantalon qui bouffe de la dinde à Thanksgiving, c'est beaucoup plus sérieux. Bref, les tortues cartonnent. Entre 90 et 2016, il y aura plusieurs séries d'animation et 5 films. Jouets, cartes de jeu, figurines, déguisements, rien ne nous aura été épargné, même la comédie musicale Tortue Ninja. Produite par Pizza Hut, s'il vous plaît. Un spectacle qui recevra la prestigieuse distinction de Worst Musical Ever. Extrait. Nous sortons de nos coquilles. C'était la chanson titre. Eh bien, croyez-le ou non, ce truc-là a eu plus de succès que Starmania. Ainsi va l'Amérique des années 90. Je n'ai hélas jamais réussi, vous l'aurez noté, à trouver un pont entre les Tortues Ninja et notre thème du jour, ces personnages qui avaient la main verte, car même s'ils avaient techniquement les mains vertes, les Tortues Ninja n'ont jamais, en plus de 400 épisodes, été confrontés à un problème d'ordre jardinier. Je vous quitte sur ce petit regret, mais je vous invite à aller découvrir une vidéo que je peux difficilement vous décrire comme ça à la radio sur les Tortues Ninja. C'est les Tortues Ninja, donc des comédiens déguisés en Tortues Ninja qui assurent la promo de cette incroyable comédie musicale dont j'ai parlé, ça se passe sur le plateau d'Oprah Winfrey, qui leur pose une question un peu border sur leur lien avec l'actrice qui joue leur amie dans le film. Est-ce que vous regrettez parfois que Machine ne soit pas une tortue ? La fille est assise à côté d'eux, il commence à expliquer à Oprah, devant un parterre d'enfants de 5 à 12 ans, que oui, il regrette un peu, qu'ils lui ont même proposé une relation inter-espèce, mais qu'elle a refusé. Et puis il y a un contre-champ sur les enfants bouche bée, complètement perdus. C'est un assez grand moment de télé, il suffit de taper « Ninja Turtles Most Uncomfortable Moment ». Tout est dit, vous verrez, c'est une belle vidéo sur YouTube.
Mais je vois à quoi vous occupez vos soirées. Merci beaucoup Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir aux Tortues Ninja, Mathieu, je sais que c'est dur.
Et à Bernard Minet, qui peut nous dire merci pour les droits d'auteur, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas tombés, ceux-là.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, le moment de se reconnecter avec notre quotidien.
Un quotidien qui est fait de plum cake pour Olivier Pouls.
Je peux vous dire que ça sent dans tout le studio, c'est un... C'est un supplice pour qui
Olivier Pauls ou le gâteau?
Non, le gâteau.
Ah, le gâteau, d'accord.
Non, moi ça va, je me suis lavé, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème.
Le plum cake, vous nous racontez les origines de ce gâteau qui est votre préféré en ce moment.
On cherche les prunes.
Mais d'abord, David Castello-Lopez nous raconte les origines de l'OSINT, l'Open Source Intelligence.
Oui, tout à fait. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne va pas y avoir beaucoup de blagues dans cette chronique. Parce que c'est vraiment dur de faire des blagues sur l'OSINT. Je suis désolé, mais ça va être quand même très intéressant. OSINT, donc, c'est un acronyme anglais qui veut dire Open Source Intelligence. Traduction, renseignement de source ouverte. Et ça désigne l'art de glaner des informations secrètes ou inconnues à partir de sources auxquelles tout le monde a accès, juste en regardant ces sources de façon à la fois minutieuse et intelligente. Ça s'oppose, si vous voulez, à une conception plus classique du renseignement où on utilise des espions sur le terrain, des satellites militaires, des gorges profondes, tout ça. Aujourd'hui, l'OSINT, c'est un peu le chemin le plus prometteur du journalisme puisqu'il permet, il se permet techniquement à n'importe qui de faire des enquêtes depuis son salon avec un ordinateur et de sortir des scoops. Je vais vous donner un exemple célèbre d'OSINT. En 2018, il y a une vidéo qui est apparue sur Internet et qui montrait quelque chose d'affreux. C'était des soldats qui semblaient camerounais à cause de leur uniforme et qui marchaient avec un groupe de femmes et d'enfants dans une zone de campagne, des femmes qu'ils accusaient de faire partie de Boko Haram. Et puis à la fin de la vidéo, ils les tuaient. C'était un crime très grave. Mais personne n'arrivait vraiment à savoir ni où cette vidéo avait été filmée, ni quand elle avait été filmée, ni qui étaient les hommes qui avaient tiré. Et puis, il y a plusieurs journalistes de la BBC qui ont analysé cette vidéo. Et par exemple, ils ont observé la ligne de crête d'une montagne qu'on voit dans la vidéo. Puis ils ont passé des heures à comparer cette ligne de crête sur Google Earth avec toutes les lignes de crête de montagne de la campagne au nord du Cameroun. Ils ont fini par en trouver une qui correspondait parfaitement. Donc là, ils savaient où c'était. Ensuite, ils ont regardé les ombres que les soldats faisaient sur le sol. De là, ils ont pu calculer l'angle du soleil. Et en combinant l'angle du soleil et la végétation, ils ont pu même déterminer à quelle époque de l'année, à 15 jours près, la vidéo avait été prise. Et puis ils ont analysé les uniformes des soldats, leurs armes, les surnoms qu'ils utilisaient entre eux. Et en croisant ça avec des profils Facebook et des documents officiels, disponible en ligne, ça leur a permis d'identifier 3 personnes qui avaient tiré dans la vidéo. Et ça a forcé le gouvernement camerounais à faire quelque chose. Et de fil en aiguille, l'année dernière, plusieurs des soldats qu'on voit dans la vidéo, ils ont été condamnés par la justice camerounaise.
Mais c'est des journalistes qui ont fait le travail.
C'est des journalistes, mais qui ont...
De la BBC.
Effectivement.
Mais n'importe qui aurait pu le faire.
Mais n'importe qui aurait pu le faire. Il se trouve qu'ils ont fait ça de façon professionnelle, parce qu'on leur a donné de l'argent. Mais maintenant, il y a des communautés qui s'entraident de façon bénévole pour faire ce genre de choses. Alors, de quand ça date, cette façon de trouver d'informations? Eh bien, on considère que ça date de bien avant l'Internet, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, ils ont mis en place une agence de renseignement. Et le métier d'un certain nombre de personnes dans cette cellule, c'était tout simplement de lire tous les journaux, y compris les journaux régionaux, notamment dans les pays occupés par les nazis, pour y glaner des informations qui étaient donc accessibles, mais en fait secrètes. Tel tank qu'on voyait à l'arrière-plan sur la photo d'un colonel, telle annonce de décès dans les colonnes obscures de la PQR, ou exemple célèbre, regardez à combien sont vendues les oranges à Paris après un raid aérien sur un pont. Si les oranges sur les marchés sont brusquement beaucoup plus chères, c'est fort probablement parce que les voies de transport ont été endommagées et donc que les raids aériens de destruction ont réussi. Alors l'OSINT, bien sûr, ça a pris son envol avec Internet et particulièrement avec l'arrivée des smartphones qui filment et des réseaux sociaux. Et ça s'accélère. Vous vous souvenez de ce moment où le vol de Malaysia Airlines a été abattu par un missile tiré depuis l'Ukraine? Et bien le Kremlin disait... La vie de ma mère, on n'a rien fait. Et c'est Bellingcat, qui est un des principaux organismes qui fait de l'OSINT dans le monde, qui a démontré que les Russes, ils étaient bien impliqués. Tout ça, simplement en regardant quelques photos et quelques images satellites. En France, ça commence à exister sérieusement, en particulier grâce à une journaliste du Monde qui s'appelle Asia Balufier et qui a utilisé, par exemple, des images amateurs pour déterminer que des CRS avaient bien tiré au LBD dans la tête d'un manifestant à Bordeaux. Je vais finir par un petit exercice d'OSINT à destination des gens qui regardent cette chronique en vidéo. Je vous le dis, la vidéo de cette chronique contient une information secrète qui concerne l'émission Historiquement Vôtre. Saurez-vous trouver laquelle, chers auditeurs et spectateurs? C'est à vous.
Moi, j'ai trouvé, tu as une bretling, ça veut dire que tu es à l'aise financièrement.
Ça, c'est une...
Stéphane Bern a une moumoute.
Vous lancez de graves accusations. Eh bien, c'était fascinant. Et ça me donne...
Ça vous a donné faim?
Ça m'a donné très faim. Ça m'a ouvert l'appétit. Déjà, on
peut rappeler... déjà, on peut rappeler qu'on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo, sur YouTube, Dailymotion, sur le site europe1.fr où, chers auditeurs, vous pouvez jouer donc pour répondre à la question de David Castello-Lopez.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec le camarade Olivier Pouls qui chaque jour nous raconte l'histoire d'une recette et nous donne parfois la recette quand il est bien luné. Olivier, aujourd'hui, le plum cake, un gâteau qui veut dire beaucoup pour vous.
Oui, je vous avoue, il y a encore quelques semaines, jamais j'aurais imaginé faire une chronique sur le plum cake et je vais même vous dire un truc, je ne savais pas trop bien ce que c'était. Mais il se trouve qu'il y a quelques jours, notre ami Stéphane Bern ici a reçu un petit cadeau qu'il a eu la bonté, l'amabilité de partager avec nous, un plum cake. Il a ouvert la boîte, on en a coupé des morceaux. David s'est précipité dessus. Je crois qu'on peut dire de sa mère, qu'est-ce que c'est bon, s'est-il exprimé en prenant trois morceaux consécutivement.
Vous avez fait les bips vous-même.
Il s'est auto-bippé. Il n'a pas fait confiance à la régie. Il s'est dit, je vais le bipper moi-même, ça sera plus sûr.
Et c'est vrai que ce plum cake, comme vous l'avez dit, était bon sa mère. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'en sache un peu plus. Alors, avant de parler de ce plum cake, je vais revenir sur le plum cake de manière un peu plus générale.
Moi, je vais déjà en bouffer un petit peu quand
même, parce
que ça donne trop envie, vous l'avez apporté en studio.
C'est une spécialité britannique, évidemment, au départ. Le cake, c'est une variété de cake aux fruits qui contient donc des fruits secs. Et historiquement, on trouvait des raisins et des groseilles que les Anglais appelaient plum. Plum, pourtant, ça veut dire prune. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu trace de prune dans le plum cake. Alors, il était servi avec le thé l'après-midi. C'était donc un gâteau de partage, mais aussi un gâteau de voyage qui pouvait se conserver pendant plusieurs jours et qu'on pouvait manger.
Tellement d'alcool dedans que tu m'étonnes, ça se conserve bien.
Alors ben voilà, c'est pour ça que dans certaines versions, il était assez copieusement imbibé de rhum. Et c'est donc le cas de celui que je vous fais déguster ici. Alors celui-ci, c'est le plum cake de la maison Bonna, une maison fondée à Voiron en 1884, qui est une maison de confiseurs, de chocolatiers,
de très grands chocolatiers de pâtisserie.
Et donc ce plum cake particulier, il a été créé par Félix Bonna en 1900 pour la venue du tsar Nicolas à Paris. Il a été présenté, il a été présenté à l'exposition universelle de 1900. Et il a reçu une médaille d'or, autant vous dire que
c'est
la
même recette que celle qu'a goûtée le tsar Nicolas quand il était à Paris.
Vous allez bien goûter, Stéphane.
Vous doutez bien que cette recette a été conservée, qu'il doit bien y avoir quelques secrets, mais en gros, il contient tous les ingrédients classiques d'un cake réussi. Alors évidemment, du beurre, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal dedans, de la farine, des œufs, de la levure, des cerises confites, de l'orangeat, c'est des petits morceaux d'orange confites, des raisins, et surtout une généreuse quantité de rhum, ce qui lui donne un moelleux et une saveur incroyable. Alors c'est dense, il faut bien le reconnaître, c'est aussi assez calorique, mais je trouve ça absolument irrésistible. Alors je vais vous donner une recette qui pourrait s'approcher un peu de ce plum cake, mais évidemment ce ne sera jamais aussi bon que l'original. Donc du beurre, de la farine et du sucre en temps pour temps, 125 grammes, 3 œufs, un sachet de levure, 150 grammes de fruits confits, 10 centilitres de rhum et une petite pincée de sel. Vous allez faire macérer les fruits dans le rhum pendant une nuit de manière à ce qu'ils soient bien imbibés. Alors les fruits, vous prenez de l'orange confit, des raisins, des cerises. On fait fondre le beurre, on rajoute le sucre, les œufs, le sel, la farine, la levure. Bref, c'est un appareil à cake. On rajoute les fruits, on place tout dans un moule avec une feuille de papier sulfurisé. Cuisson dans un four à 200 degrés durant environ 35 minutes. Il doit rester moelleux. Et c'est ça qui est fantastique dans celui-ci, c'est qu'il est vraiment moelleux. Puis, comme je le disais, c'est un cake de voyage. Donc, c'est un cake qui se conserve. Il peut se conserver au moins 2 mois. Donc, merci encore à la Maison Bonna qui m'a permis de m'intéresser au plum cake. Et resservez-vous, les amis.
C'est le seul cake sur lequel il faudrait apposer la mention à consommer avec modération.
Et puis, évitez peut-être que les enfants ne sont pas les bienvenus à table quand vous sortez ce plum cake.
Il faut faire attention.
David, une petite.
David, s'il vous plaît, servez David.
Mais David, on ne vous reconnaît plus.
Moi, je vous remercie, Olivier. Stéphane, vraiment, vous avez tort de ne pas le goûter. Je sais que vous faites très attention, mais vous pourriez vous autoriser ce petit excès.
Petite bouchée, quand même.
C'est 120 calories par petite tranche, à peu près. Donc, si vous en prenez une demi, ça fait 60. C'est comme une pomme, vous voyez, c'est pas grave.
C'est comme une pomme, voilà. C'est une bonne comparaison. Merci, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Dans quelques secondes, David va recracher son plum cake après une nouvelle défaite dans la lutte finale, Stéphane.
Oui, c'est la lutte finale, un quiz où l'on apprend en s'amusant. C'est un peu comme le portrait de Mathieu Noël pour ceux que ça amuse. Voilà. Alors, Olivier, la question est toujours pour vous. Moi aussi, j'aime bien avoir des rides dans mon quiz. C'est en 1958 que naît notre cinquième république. Mais également Madonna, née en 1958. Et Monsieur Propre, alors selon vous, il est né avant, après ou la même année ?
Il y a trois solutions cette fois, c'est handicapant parce que normalement c'est toujours deux.
Oui.
ça se complique, hein. Là, on va finir la saison comment, je ne sais pas. Monsieur Propre, oui, il y a déjà de la publicité à la télé, il y a déjà de la réclame, ça fait partie de cette période où je pense que les produits ménagers... Moi, je dirais oui, si c'est pas...
Après, la même année, avant ?
Non, moi, je vais dire la même année, c'est tout
la
à
même
fait
année.
Possible.
Alors, la même année, oui, aux États-Unis. Mais il faudra attendre 1966 en France. Aux États-Unis, c'est...
Vous avez bu du plum cake.
Aux États-Unis, c'est Mr. Clean. Vous savez comment on l'appelle, Monsieur Propre, en Espagne ?
Ah non ?
Don Limpio.
Don Limpio.
Alors, David, c'est pour vous. Ayons une pensée pour l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs. D'ailleurs, mieux qu'une pensée, vous pouvez faire un don sur le site emmaüs-france.org. Fait insolite, Michou a été le propriétaire de la cape de l'abbé Pierre, puis il l'a revendue au profit des retraités de son quartier. Vrai ou faux ?
Je sens que, en fait, c'est toujours ce genre d'anecdote où on sent qu'il doit y avoir quelque chose qui est vrai
et
quelque
chose qui est faux. Mmh. Bah
voilà, c'est pas la cape qui est le chapeau.
Voilà, c'est un peu comme ça.
C'est un peu. J'ai envie de dire, c'est faux.
C'est faux. Michou n'a jamais eu la cape de l'abbé Pierre. La cape a été donnée à l'homme d'église dans les années 50 par un pompier, le lieutenant-colonel Sarniguet. Le cadeau a été accepté à condition que cela soit un don. En 2007, après sa mort, l'abbé Pierre a demandé à ce qu'elle soit rendue aux sapeurs-pompiers de Paris. Elle est au musée des pompiers de Paris.
Deux bonnes réponses. Piège, en fait.
Non, il n'y a pas
faux.
De piège. Alors, Mathieu, si je vous dis Marignan, vous me dites...
1515.
Bravo, mais ce n'était pas la question.
Non, si, j'ai déjà
dans
mis, moi.
Dans quel pays se trouve Marignan et contre qui se battait François Ier ? C'est surtout la deuxième, parce que vous savez où est Marignan.
Oui, mais quel...
Mais contre qui se battait François Ier ?
Contre les Suisses.
C'est une bonne réponse.
Merci. Allez.
Trop facile, il est suisse, en plus.
Bah oui. Ouais.
François Ier.
Vous avez des ancêtres peut-être qui étaient à
Marignan. J'ai aucun ancêtre suisse, Poul, vous le savez très bien.
Ils sont installés depuis qu'il y a eu le contrôle d'échange en 1984, quand ils ont fui le régime fiscal français.
C'est faux, depuis 1980 mes parents étaient en Suisse,
oui.
Bien avant cette mesure.
Ah, juste l'année, ils ont pressenti qu'il y aurait François Mitterrand, parce que moi j'ai connu les gens fuir
mais
comme j'étais jeune en 1980.
Mes parents ont voté Mitterrand, ne dites pas n'importe quoi.
Oui, on peut voter et après... Alors la question qui départage.
J'embrasse ma maman.
La réponse la plus proche remporte la lutte finale. Le 28 janvier 1878, événement mondial, dans le Connecticut aux États-Unis, on inaugure le premier central téléphonique. Les opératrices sont en place. Combien d'abonnés sont desservis par cette première centrale téléphonique ?
T'es en quelle année ?
1878.
Au début, ça devait être ridicule au tout début. Oui. Moi, je dis qu'ils étaient 15.
15 ?
C'était un test, en fait, ça, ce truc-là.
Non, c'est les gens s'abonnent, mais ça va pas très vite, vous voyez.
Mais moi, je dirais 12.
12 ?
11.
C'est Olivier qui gagne. C'était 21 personnes.
Ah la vache, il gagne tout le temps maintenant.
Ouais. Ouais.
Trois victoires consécutives.
La moule belge.
Bravo. Une remontada.
La remontada belge.
Remontada. Bravo Olivier Pouls. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à Stéphane et ses personnages illustres de l'histoire qui avaient la main verte et aussi aux tortues ninja. Sorte de bizutage tardif que j'ai vécu aujourd'hui et qui restera longtemps gravé dans ma chair. Vous n'avez aucun remords, Stéphane ?
Non. Aucun, parce que c'était une émission fabuleuse et je crois que c'était l'un de vos meilleurs portraits.
Oui, je vous aurai un jour, Stéphane, vous aurez.
Qui sait, peut-être demain. À demain, Mathieu, à demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.